au réseau Cogeco. Mario Langlois rencontre.
Messieurs, bonjour et surtout la plus cordiale des bienvenues au rendez-vous qu'on vous propose cette semaine. Vous avez pu le constater justement au cours des derniers week-ends, on s'est donné la permission, puis j'oserais dire la latitude de visiter des univers sportifs avec lesquels on est généralement moins familier, à travers évidemment les témoignages de personnalités qu'on a connues à travers ces sports. Et aujourd'hui, je vous propose une immersion. On sort à peine des Jeux Olympiques. On a regardé beaucoup de curling aux Jeux Olympiques de Corée du Sud. Une immersion dans le monde du curling avec un Québécois qui a été, et qui l'est encore d'ailleurs, il est analyste au réseau des sports, qui est devenu l'un des curlers les plus populaires au pays. On se souvient des succès qu'il a recueillis là, ou qu'il a récolté il y a de cela quelques années. Et est devenu le visage du curling, particulièrement au Québec, très connu dans le Canada anglais également, où il a fait des tournées pan-canadiennes année après année. Guy Hemmings est avec nous. Salut Guy!
Ben bonjour!
Comment ça va?
Ben ça va très très bien, très content d'être là.
Ben merci d'avoir accepté notre invitation, spécialement pour la première fois, je pense, depuis que tu couvres les Olympiques comme analyste. T'étais pas sur place en Corée du Sud. Je sais pas comment t'as trouvé l'expérience de le couvrir à distance, puis comment tu as trouvé la qualité du tournoi olympique de curling?
Ouais, si on parle de la compétition des équipes canadiennes, on pourrait l'analyser en long et en large, mais au niveau de l'expérience personnelle, c'était la première fois que j'avais l'opportunité de couvrir les Olympiques sans être sur place. Je l'ai fait à trois reprises. J'ai été en Italie, à Turin, j'ai été à Vancouver et à Sochi. Évidemment, de le faire en studio, c'est un petit peu différent, un petit peu moins le feeling olympique, si on veut. Mais par contre, des fois, ça peut être très bien, puis ça peut être un peu moins bien. Comme à Sochi, le curling était très, très près du centre olympique. On était près du centre des médias, on était près de la flamme olympique. Alors, tu avais vraiment l'impression d'être impliqué. Mais par contre, d'autres fois, ça peut être un petit peu en retrait. Et ça, il n'y a pas vraiment de grande différence être dans en retrait ou le faire de Montréal. Donc, il y a eu du côté intéressant de le faire de Montréal. Tu crées une petite équipe dynamique que tu travailles. Le côté difficile était de le faire de nuit, parce que les matchs étaient à 7h le soir, minuit et 6h du matin. Donc,
comme nous, les téléspectateurs, si on voulait suivre quelque chose en direct, des fois, là, c'était pas évident. Hein?
Oui, ça a été un petit peu plus difficile, mais on s'habitue assez rapidement. Puis la couverture est quand même assez intéressante. Le curling est un sport très intéressant télévisuellement. C'est un sport que des microphone sur les joueurs. C'est un sport qui quand même peut être assez lent. On a le temps d'analyser, on a le temps d'anticiper les coups à l'avance. Et je pense que de plus en plus, ça plaît aux spectateurs. C'est un sport qui est en pleine croissance au niveau des cotes d'écoute là, au Québec.
Et même au niveau de la participation, parce que je pense qu'on dit, on en parlait avant l'entretien, que c'est peut-être le sport ou l'un des sports qui connaît mondialement le plus grand niveau de croissance. Dans des pays où on ne jouait pas du tout. Là, on voit l'équipe américaine qui est allée chercher un grand courant de sympathie. Je dis pas que ça ne joue pas au curling aux États-Unis, mais là, ça a exposé ce sport-là à des millions d'Américains. Là.
Oui, à travers le globe, là, depuis que le curling est redevenu un sport officiel aux Olympiques en 1998, il y a beaucoup de fédérations qui se sont créées, et il y a des fédérations là, on pense à l'Asie surtout. Il y avait du curling au Japon, mais si on regarde la zone Pacifique, pendant des nombreuses années, les meilleures équipes de la zone Pacifique étaient l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et ces joueurs-là étaient souvent des anciens Canadiens à leur retraite ou sur bord de leur retraite qui déménageaient ou faisaient des affaires dans ce coin-là. Ils jouaient au curling et représentaient l'Australie. C'est plus le cas aujourd'hui parce que le Japon, la Corée, on a vu les Coréennes aux dernières Olympiques, la Chine ont mis les sous nécessaires pour développer un programme de curling efficace. Et ces fédérations là sont de plus en plus compétitives. C'est la même chose en Amérique du Sud. D'ailleurs, avant le championnat masculin chez les messieurs, le championnat du monde masculin qui va commencer dans deux semaines, le Brésil a défié le Canada là, pour avoir une place au championnat du monde. Normalement, ils défient toujours parce que c'est des zones, la zone atlantique. Il y a le Canada, les Américains, les États-Unis, si on veut, qui sont toujours là. Mais cette année, le championnat du monde aura lieu à Las Vegas chez les messieurs. Donc, l'équipe locale est obligée d'être représentée. Alors, les Brésiliens qui voulaient essayer de se faire une place au championnat du monde devait défier l'autre pays. Donc, ils ont dû défier le Canada. C'est assez amusant. Ils ne sont pas rendus là. Ils ne sont pas rendus assez talentueux là, ou assez d'expérience pour battre le Canada. Mais ils l'ont quand même défié. C'était un 2-3. Il fallait que le Canada batte le Brésil deux fois. Donc, on voit que ça se développe au niveau international là, de façon très, très intéressante. Dans les pays d'Europe de l'Est, surtout en Asie énormément, et même en Amérique du Sud, plusieurs pays d'Europe, je pense à l'Espagne, la Turquie, qui ne joue pas au curling depuis plusieurs années, ont des programmes maintenant qui s'intéressent à ce sport.
Est-ce que les joueurs sont meilleurs qu'à l'époque où tu as connu tes meilleurs moments si on fait des comparaisons? Dis toujours que le sport s'améliore. Sens-tu que tu pourrais revenir avec ton jeu d'il y a 15-20 ans puis être quand même au sommet ou non, le curling a trop changé ou pas tant que ça?
Ben, je pense que ça a beaucoup changé. Ben, c'est la même, on se posait la même question, toujours les classiques. Est-ce que Boris Richard comptera encore 50 buts aujourd'hui? Probablement que non. C'est mon opinion. Mais si on prendrait l'athlète Maurice Richard, on lui donnerait les mêmes environnements d'entraînement, les mêmes entraîneurs, les mêmes méthodes, toutes les méthodologies qui sont appliquées à un jeune joueur talentueux. Mais Maurice Richard finirait probablement parmi les meilleurs joueurs de la Ligue encore aujourd'hui. Mais si on le téléporterait d'un coup sec aujourd'hui, probablement qu'il serait pas capable de suivre le tempo. Mais c'est la même chose. Les athlètes aujourd'hui s'entraînent de façon beaucoup plus sérieuse qu'à notre époque. D'autres, on se contentait de lancer des pierres. On en lançait beaucoup, mais on n'avait pas de psychologue sportif, on n'avait pas de nutritionniste, on s'entraînait pas tout l'été dans les gymnases. On y allait un peu un mois avant que la saison commence pour être en bonne condition physique.
Mais si on t'avait proposé tout ça à l'époque, là, aurais-tu dit « Oh, non, laisse faire, pas besoin de ça » ou t'aurais accueilli ça à bras ouverts?
Ben, personnellement, je pense que je l'aurais accueilli. C'est plus facile à dire après, mais je pense honnêtement que je l'aurais fait parce que j'ai commencé à jouer au curling très, très tard. Hein. J'ai commencé à jouer au curling à 23 ans, donc c'est très tard. Dans l'Ouest canadien, les jeunes commencent à jouer au curling à 7 ans, donc peuvent développer des techniques, des habilités beaucoup plus rapidement. C'est plus facile d'apprendre quelque chose lorsqu'on est plus jeune qu'à 23 ans. Moi, j'ai commencé très tard, alors j'ai dû rattraper le temps perdu. Donc, j'ai pratiqué beaucoup. T'sais, j'ai été un des joueurs au Québec et au Canada qui lançait le plus de pierres. Donc, c'était une de mes forces, l'entraînement. Donc, j'ai mis beaucoup de temps pour rattraper les 10 années perdues que j'avais pas, où j'avais jamais joué au curling. Donc, probablement que je dis oui, parce que j'étais prêt à faire les efforts. Je les ai fait, les efforts, pendant une quinzaine, vingtaine d'années, à être sur les glaces à tous les jours, à m'entraîner à tous les jours, à lancer un minimum de 100 pierres par jour. Donc, je me levais le matin, comme tous les athlètes. Bon, à quelle heure que je peux aller m'entraîner aujourd'hui? À quelle heure que la glace est disponible? Et après ça, ben là, je commençais à penser à mon travail, les autres obligations sociales qui peuvent accompagner n'importe quel individu. Alors, pendant 15 ans de temps, ben, en ouvrant les yeux, ben, quand est-ce que je peux pratiquer aujourd'hui? Quand est-ce que je peux aller au gym aujourd'hui? Quand est-ce que je peux faire le nécessaire pour essayer d'être meilleur dans mon sport? Là, j'ai confiance que je peux répondre oui à ta question. Là.
C'est spécial, pareil, Guy Hemming. T'as commencé à jouer au curling aux environs de 23 ans, de dire que ça allait prendre autant de place dans ta vie pour presque le reste de tes jours. Là, t'aurais jamais imaginé ça à 22 ans. Probablement pas.
Non, écoute, c'est...
C'est arrivé par accident ou c'est un sport que t'as choisi? Comment c'est arrivé puis comment ça se fait que ça... T'avais un talent naturel pour ça, faut croire?
Ben non, je pense que, avant tout, je suis un grand amateur de sport. J'ai toujours aimé le sport. J'ai aimé toutes les... J'ai joué au golf quand j'étais jeune. J'ai joué au hockey très, très jeune. Ben, j'ai commencé à
essayer.
J'ai commencé à jouer au curling. Je me souviens, j'allais à l'Université de Montréal à l'époque, puis un de mes copains, on restait à Montréal tous les deux en appartement. Là, on venait de Sorel, mais on restait à Montréal depuis quelques années. Quelqu'un a dit, j'ai vu un écriteau qu'on peut aller essayer le curling. Il y a un club de curling qui s'appelait le club de curling Outremont. Il est fermé, malheureusement, aujourd'hui, sur la rue Saint-Viateur. C'était marqué qu'on pouvait essayer le curling gratuitement samedi matin. On y va-tu? Alors, on est allés là tous les deux. On s'est présentés là dans le club de curling. Et comme je l'ai dit souvent, là, quand j'ouvrais la porte du club de curling, tu sais, c'est pas capable de penser à quel point le fait d'ouvrir cette porte-là, de rentrer dedans, combien ce geste-là a pu façonner ma vie, là. Encore aujourd'hui, il a façonné les 30 années de ma vie qui ont suivi. Et là, ça fait 30 ans de ça et continue de le façonner. Juste d'être rentré dans ce club de curling-là.
T'aurais pu dire, oh, pas matin.
Ben
le
oui,
matin.
C'est exact.
Non,
exact.
Vous êtes allé en gang, un trip de gang sans attente, sans plan, là.
C'était pas,
on va essayer ça.
C'était pas décidé, hey, je vais faire un jour de curling. Non, il y avait une activité de curling offerte par un club de curling un matin, puis je vais y aller, comme quelqu'un m'aurait dit, veux-tu aller jouer à la raguette, veux-tu aller jouer au bowling, veux-tu essayer toutes les... J'aurais dit oui à n'importe quoi, parce que je suis un amateur de sport. Alors je me suis présenté là, et pendant 3-4 ans, je jouais avec les gens de la place, mais du coup, là, ah ben peut-être qu'il y a des tournois, je pourrais peut-être... J'écoutais même pas le curling, honnêtement, à la télé, dans ce temps-là, il y en avait, mais on savait que ça jouait, on savait qu'il y avait des... Mais c'était juste
ça
pour
t'a
le
pas
plaisir.
Interpellé plus que ça,
non,
là,
mais,
de
là, à
force
de
ça.
Jouer, puis là, du coup, tu t'améliores un peu, puis là, du coup, tu commences à prendre des efforts, puis tout ça. Là, du coup, ça a progressé, mais c'est quand même, j'aime ta question, parce que c'est magique. Des fois, j'y repense avec recul, là, cette fameuse porte-là, là, quand je le vois, je me souviens de l'image, là, de me présenter là le samedi matin, combien ce geste-là a changé ma vie, là, et de façon positive. Le curling a beaucoup de belles habiletés, comme tous les sports, mais une de ses principales qualités, et ça, je suis pas gêné de le dire, c'est que pour jouer au curling, là, c'est des bonnes personnes qui jouent à ça, parce que c'est un sport d'équipe. c'est un sport de gentleman, tu sais, c'est un sport où il y a beaucoup, on joue des matchs et des matchs sans officiel, il y a pas d'argumentation, il y a pas de coup de bâton, on se donne pas on s'enfarge pas au curling. On joue des matchs à l'année longue sans qu'il y ait un officiel. Il y a des officiels aux Olympiques, des officiels aux championnats canadiens, mais ils sont là juste au cas, mais ils en ont même pas besoin parce que ces joueurs-là respectent les règles tout le temps. Donc c'est un sport de gentleman. Mais en plus, il faut que tu joues à quatre, ça prend une collaboration spéciale. Alors, j'en connais pas mais beaucoup de gens qui sont aguissables puis qui viennent à bout de se trouver trois autres individus pour jouer avec. Donc, le curling se nettoie en quelque sorte de mauvaises personnes. C'est pas un sport pour les mauvais tempéraments. Il y a pas de place dans ce sport-là pour ça. Donc, ultimement, si j'extrapole, les clubs de curling sont remplis de bonnes personnes, tu sais, parce que c'est des gens qui sont sympathiques, qui sont prêts à travailler avec les autres.
Guy Hemmings est notre invité. C'est le visage, en tout cas certainement l'un des visages du curling au pays. Et on comprend pourquoi c'est devenu l'un des curlers les plus populaires au pays, parce que vous l'entendez après cette première partie d'entrevue. C'est un raconteur exceptionnel et on revient dans un petit moment pour la suite de l'entretien.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Nous sommes de retour avec notre invité cette semaine, Guy Hemmings, un nom associé depuis 30 ans déjà au monde du curling au Canada, au Québec et même ailleurs dans le monde. Si t'avais pas ou si t'étais pas devenu un joueur de curling, est-ce qu'on t'aurait retrouvé quelque part dans le monde du sport, Guy, toi qui pratiquais tous les sports?
Ben, votre côté d'une anecdote assez intéressante. Moi, j'ai commencé à jouer au hockey très, très jeune. J'avais la chance, mon père travaillait dans un aréna. On vivait à Saint-Jean-sur-Richelieu à l'époque et mon père, il travaillait pour la ville de Saint-Jean. Il travaillait dans l'aréna. Donc, j'avais la chance d'aller patiner des nuits de temps là, avec l'aréna au mois de seul. Donc, je pense qu'à l'âge de 3-4 ans, j'ai commencé à patiner très, très jeune. Mais ma carrière de hockey, c'est terminé à peu près à l'âge de 5, par exemple.
Ah oui? Comment ça donc?
Assez rapidement. Non, je sais pas. C'est un sport là, que j'ai pas développé des habiletés. Mais une anecdote que je veux te raconter, plusieurs années plus tard, j'ai peut-être une douzaine d'années, mes parents sont déménagés à Longueuil. Alors, les parents, ma mère, comme tous les parents, étaient inquiets. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire comme sport? Faut que tu te fasses des nouveaux amis. On déménage, on sort un enfant de son milieu habituel. Elle dit, tu pourrais peut-être te remettre au hockey. Ah, et peut-être. Alors, j'ai dit, ouais, on va aller. Il y avait une aréna à Longueuil. Alors, ma mère, comme toutes les mères, a probablement appelé à peu près tous les dirigeants de hockey mineur de Longueuil pour dire, mon fils, ça veut jouer au hockey à Longueuil. Mais tu t'imagines le fils venant de la campagne qui débarque à Longueuil et la mère qui dit, oh, il est très talentueux, il patine bien. Et je me rappelle, je suis arrivé à l'aréna Jean Béliveau à Longueuil un samedi matin. Et là, je mets mes patins. Et là, il y avait 3-4 entraîneurs, là, probablement comme des scouts, là, pour essayer de voir évaluer le talent du joueur de 12 ans.
Avant de faire les groupes, là.
Nouveau qui débarque en ville, mais j'ai commencé à faire un tour de patin. J'avais pas tourné le premier coin, qu'il n'y avait plus personne pour surveiller mon coup de patin. Alors j'ai compris cette fois-là que j'avais pas grand avenir dans le hockey. Là.
Ils se doutaient pas, eux autres, pendant qu'ils allaient te revoir la face dans un autre sport de glace. Hein?
Non, probablement pas, mais au hockey, ça s'est arrêté là.
Où est-ce que c'est le plus populaire dans le monde, le curling, Guy?
Ben, de toute évidence, c'est au Canada. Et c'est difficile à comprendre ici au Québec parce qu'on est loin par rapport à ce qui se passe dans l'Ouest canadien, entre autres. Là, mais un joueur de curling là, populaire là, comme Guy Hemmings de son époque, ou on va garder les meilleurs joueurs, le Brad Gouchou, par exemple, qui vient d'y remporter le titre canadien, lorsqu'il se promène dans les rues de Winnipeg, dans les rues de Calgary ou Regina, est aussi populaire qu'un Guy Lafleur dans ses bonnes années au hockey. Il est aussi populaire qu'un joueur de hockey qui joue pour les Oilers d'Edmonton ou pour les Jets de Winnipeg. Le curling est très, très populaire dans l'Ouest. On a beaucoup de gens. On a 1 million de joueurs de curling là, qui jouent sur une base régulière au Canada.
La plupart dans l'Ouest?
La grande majorité dans l'Ouest. Au Québec, on a à peu près 15 000 participants. Donc, sur 1 million au niveau de la population, le prorata n'est pas le même. Mais le sport est très populaire au Canada. Il est populaire également là, de plus en plus là, en Europe, là, dans l'Europe du Nord et en Asie. Il commence à prendre de l'ampleur. Mais c'est sûr que c'est au Canada. Là, il y a quelques années, là, il y a peut-être 5-6 ans, il y avait plus de joueurs de curling au Canada que dans le reste de la planète ensemble, là, regroupés. Mais comme on a parlé tantôt, ça change rapidement. Là, ça se développe un peu partout en Europe de l'Est, en Asie, en Amérique du Sud. Donc, ce chiffre-là va changer dans les années à venir. Mais le Canada reste encore la mecque du curling au niveau international.
Est-ce que ça a levé? Est-ce que ça s'est beaucoup développé au Québec depuis tes grandes années où tu as été très populaire? Ben, tu le demeures de par ton rôle d'analyste. Tu demeures un visage qui est présent là, encore dans l'actualité. Mais reste que, tu sais, depuis que ça a boomé, là?
Mais c'est sûr que ça l'aide, comme tous les sports qu'on essaie de développer, c'est bon qu'on en parle un peu. Je pense qu'il aide beaucoup le développement du curling au Québec présentement. C'est la couverture médiatique qu'on a à RDS. Par exemple, on couvre à peu près plus de 100 matchs par année. Alors, ça l'aide. On a une chance de voir ce sport-là. Les Olympiques, c'est un gros vendeur également lorsqu'on vient de faire, on vient de passer une période olympique. Mais les Olympiques, c'est comme ça. Hein. On écoute, nous autres, les amateurs de sport, on écoute tout ce qui joue. Là. Que ce soit de la, que ce soit du bobsleigh, de la luge, du patinage de vitesse courte piste, longue piste, on est tous ce qui nous présente. Alors, au curling, durant les Olympiques, on présente beaucoup de curling. Alors, ça donne une chance aux gens d'écouter ça et on fait beaucoup de matchs. On a commencé les Olympiques cette année, 3 jours avant que les Olympiques commencent. On était là 18 jours de temps à présenter au moins 2 matchs par jour et la plupart du temps, 3 matchs par jour. Donc, on a beaucoup de couverture médiatique en curling et ça, c'est le meilleur vendeur qu'on peut faire parce que le curling, c'est un sport télévisuellement extrêmement intéressant. C'est un sport qui, les caméras sont proches des joueurs, on a des micros sur les joueurs, on peut entendre les conversations, on peut découvrir les personnalités des joueurs de façon plus qu'on le fait dans d'autres sports. Imagine si on avait un micro sur l'entraîneur des lanceurs lorsqu'il va parler à son entraîneur à la 7e manche avec les buts remplis ou si on entendait l'entraîneur de hockey parler à ses défenseurs qui viennent de commettre une bévue lorsqu'il pense puis lui parle à l'oreille. Mais au curling, c'est comme ça. On les a, les micros sur les joueurs. Donc, ça crée une espèce de lien, à mon avis, entre l'amateur, le fan, comme on vient de l'appeler, et le joueur. Et je l'ai vécu à quelques reprises. Souvent, les gens, à plusieurs reprises, je dis, souvent, les gens ont l'impression qu'ils te connaissent.
Ils s'identifient à ta façon de penser. Il va faire ça.
Mais ils te connaissent. Mais ils connaissent, au-delà de ça, ils connaissent même ta personnalité parce qu'ils t'ont écouté pendant X nombre de fois maugrer dans telle situation ou être content dans telle situation. Et ça crée un lien particulier. On connaît pas vraiment la personnalité de joueur de premier but au baseball ou de voltigeur de gauche ou un défenseur. Mais au curling, tu peux pas cacher ta vraie personnalité parce que on a la caméra très, très près. On a beaucoup de temps mort. Et en plus, on a ce fameux micro là, qui nous permet de faire un lien.
C'est sans filet, là, dans le fond. Hein?
Oui, exact. On a ce micro-là tout le temps. Alors, si la plupart du temps, je m'amuse à bougonner à toute fois que je rate une pierre et que je suis désagréable sur les glaces, les gens, ils le reconnaissent assez rapidement, ça. Mais les gens qui sont sympathiques, les gens qui sont francs, ouverts, qui ouvrent leur jeu, ben, les gens créent des liens avec ces
est-ce qu'il y en a que ça dérange ou tout le monde accepte cette réalité-là?
Non, il n'y a pas personne qui le refuse. C'est certainement que... Je pense une question d'habitude. Il y en a qui sont plus dérangés, là. Les premières fois que tu as à jouer un match à la télé avec le microphone, évidemment, c'est faut faire attention, des trucs comme ça, mais j'ai jamais entendu dire que personne n'a dit non, je veux pas porter de micro.
Guy Hemmings qui est avec nous. Toi, Guy, évidemment, les gens sont tombés en amour avec ta personnalité. Je pense que tu as vraiment contribué à faire faire en sorte que le sport se développe, soit plus connu. Puis d'ailleurs, tu as même eu une tournée après que les gens t'aient découvert, là, alors que tu as atteint les demi-finales du Breyers. Je pense que tu as 3 reprises de ça, trois années consécutives.
Deux fois consécutives, on atteint la finale, un quart de finale. Bon. Mais on a malheureusement jamais gagné. Mais
sans gagner, t'as quand même percé, si tu veux, la scène du curling canadien. Donc, c'est pas parce que tu l'as gagné que c'est arrivé. Il y a quelque chose qui s'est produit avec ta personnalité. Il y a des clics qui s'est produit.
Ouais, non. C'est sûr que j'aurais bien.
T'étais lousse, hein. Comment dirais-je? C'est comme le monde voulait être le chum de gaming. J'ai l'air cool, ce gars-là. Il n'y a rien qui l'énerve ben. Puis, c'était un peu ça, hein.
Ouais, on était très populaire. On avait une équipe très populaire. On était une équipe qui sortait du cadre. On était un peu plus coloré. Le curling, il y a une vingtaine d'années, était plus strict. C'était un sport qui était reconnu comme un sport d'anglophone. Un peu comme, j'aime bien dire là, que c'est un peu comme le tennis avant que les joueurs commencent à porter des shorts hautes que des shorts blanches et des
un petit au peu golf aussi.
Exact, même chose. Donc, le curling était un peu, il y avait un peu cette image-là. Et Guy Hemmings est arrivé avec son équipe avec les cheveux droits sur la tête et s'amuser. Je pense qu'on s'amusait sur les glaces. Ça paraissait, les gens se sont identifiés et on était très, très populaires. Là. Je me rappelle peut-être des bons souvenirs. Là. Je me rappelle, on a gagné un championnat provincial il y a quelques années. Là, je pense que c'est le 3e qu'on a gagné. On s'en allait au Breyers. Et le réseau de télévision principal qui couvre le curling t'appelle 5 minutes après le match pour te dire merci. Là. Je pense que c'est bon signe. C'est signe que tu fais un travail assez intéressant. Là, parce que là, ils savent que les codes d'écoute viennent de faire un bon. L'Association canadienne venait de vendre des billets. Je pense que le championnat canadien, je ne sais pas combien de 1000 billets avaient été vendus le lendemain qu'on avait gagné, qu'on venait de... assurer notre prestation, là, notre présence, devrais-je dire, au prochain championnat canadien. Mais tout ça, c'est des beaux souvenirs. C'est sûr que j'échangerais peut-être une victoire de plus, mais au niveau de l'impact qu'on a eu sur le sport, au niveau de l'intérêt qu'on a eu des amateurs, ça, c'est difficile de demander mieux.
Parce que c'est Curling Canada, après ça, qui t'a soumis une proposition de dire « ça te tente-tu de te promener à travers le pays puis participer au développement du sport? » Oui, mais ça s'est appelé comment, donc, ta tournée?
C'était le Rockin' House Curling Tour. Donc, en fait, si tu me permets, je vais la raconter. C'est quand même une histoire assez intéressante parce que, à un moment donné, pour jouer au curling, j'avais une petite entreprise agricole. Alors, il fallait bien libérer du temps l'hiver. C'est pas facile de libérer autant de temps et de travailler pour quelqu'un d'autre ou en train de demander des congés, et ainsi de suite. Fait qu'à un moment donné, j'ai repris une entreprise agricole que mon père avait fait un peu comme sideline, un à côté pour son travail. Alors, j'ai embarqué avec lui dans ce travail-là. On est devenu plus gros, on faisait pousser des légumes en serre. Là, aujourd'hui, ça aurait été peut-être plus payant avec ce qu'on va faire pousser dans les serres dans les prochains mois, mais dans ce temps-là, on se contentait de faire pousser des tomates et des concombres, mais ça me libérait de mon temps. Mais au niveau financier, c'était pas intéressant. Et le curling, dans ce temps-là, n'avait pas les mêmes commanditaires. Évidemment, jouer au Québec, c'est plus difficile d'attirer des commanditaires en curling que ça l'est peut-être à Winnipeg, Calgary ou Regina. Alors, financièrement, c'était pas le pirou. Hein? Alors, après quelques années que je joue au curling, j'avais déjà joué dans deux championnats. On avait fait les deux finales. Ça, c'était en 2001, en 2001 exactement. Ma femme, qui travaillait elle aussi, a eu une opportunité d'aller travailler en Europe. Alors, elle me dit ça. Oh, est-ce qu'on peut aller travailler en Europe? Ça m'intéresserait. Elle est allée faire quelques stages. Bon, Joe, je vais y aller. Puis, en fait, cette compagnie-là m'a engagé également. Parce que si on s'en va en Europe, il faut que je travaille aussi. Fait que c'est une compagnie que je n'ai pas gêné. Je suis affilié à travailler pour eux. C'est la compagnie Canam Manac.
Oui.
Alors, on a travaillé tous les deux pour Canam Manac. Alors, je suis parti pour aller travailler en Europe. Mais en fait, j'ai gagné le championnat provincial pour la troisième fois le samedi soir. C'était à Chicoutimi. Et le dimanche matin, je prenais l'avion pour m'en aller en France. Alors, normalement, j'allais pas jouer. J'étais pas capable de jouer le championnat canadien. Alors, j'arrive en France. Ben là, déjà, tu viens de gagner le championnat provincial. T'as une chance d'aller au Brouwer. Puis là, tu y vas pas parce que t'es... Tu sais, j'avais dit oui à ma femme. Puis j'étais d'accord, mais disons que ça me torturait pas mal. Alors, je vais voir mon employeur en France. Puis j'explique ça. Dans ce temps-là, c'était des qualifications olympiques. Puis là, il me dit, ouais, c'est un sport important, le curling. Puis je sais qu'ils vendent ma salade un peu. Là, il me regarde. Puis le curling, là, c'est le sport qui joue avec des théières sur la glace, là. Alors, j'ai compris que j'avais pas beaucoup de chance d'aller au Brouwer. Mais, le curling étant aussi populaire au Canada, il y a eu un peu beaucoup de pression dans les médias
ça
canadiens.
Ça s'est su, coudonc, le gars, il viendra pas.
Gaming, j'ai gagné le provincial, mais ne viendra pas. Alors, le patron m'a rappelé 3-4 jours après, il y avait eu un appel, parce que c'était une compagnie canadienne qui était en France. Il a dit, écoutez, vous allez le laisser revenir au Canada pour qu'il puisse jouer au Brouwer. Et je suis revenu. Mais quand j'ai terminé le championnat canadien, je suis venu jouer, on a perdu encore de finale. C'était à Ottawa cette année-là. Il y a un journaliste d'Ottawa qui vient me voir, c'est ensuite qu'on fasse une entrevue, tu lâches, et on s'assoit dans la chambre des joueurs, après le match, après le dernier match qu'on joue, pourquoi ça tu lâches le curling, là, t'es au pic de ta forme, t'es un des curlers les plus populaires au monde, blablabla. Ben là, j'explique ça, là, la situation financière, puis il faut bien, j'avais des jeunes enfants, il faut bien gagner sa vie, le curling est un sport amateur, il n'y a rien de professionnel. Je lui raconte l'anecdote, je dis, en fait, j'ai dit, il y a quelques mois, j'ai appliqué, parce qu'on peut être gérant dans l'Ouest canadien d'un club de curling où tu peux presque gagner ta vie. Alors, j'avais appliqué sur un poste ouvert, ben, je dis, bon, gaming, tu peux peut-être faire ce job-là, tu sais, je gère ma propre business, le curling, je connais ça un petit peu, l'entreprise aussi, les finances aussi, mais... J'avais envoyé mon curriculum vitae sans aucune réponse. Alors, je dis ça au journaliste. J'ai dit, j'ai compris. J'ai dit au gars, j'ai compris ce fois-là que je travaillerai jamais dans le curling parce que s'ils prennent même pas la peine de me répondre pour un emploi de gérer un club de curling en Ontario. Alors, c'est là que j'ai accepté de déménager en Europe, tu sais. Fait que là, le gars a publié ça dans les journaux, son article, et effectivement, le gérant, ben, le comité, le président du club de curling a appelé l'association canadienne. C'est nous autres, on l'a pas pris, et là, ça a fait une espèce de boule de neige. Et le fait que je sois en Europe, ben, c'est ça qui m'a un peu ramené. L'association canadienne a dit, ben, il faut ramener ce
on a besoin de lui, notre sport a besoin de ce gars-là au pays.
Ce bonhomme-là. En fait, j'avais deux, à mon avis, Il y avait un schisme un peu entre l'association des joueurs et l'association canadienne pour des raisons de commanditaire, comme c'est souvent le cas dans des sports.
Oui.
Et les deux parties m'offraient une opportunité de revenir au Canada, même si ça faisait quelques mois seulement que j'étais en Europe. Et là, on a négocié quelque chose et je suis revenu travailler pour l'association canadienne, un tour qui s'appelle Rockin' House Curling Tour. Et j'ai travaillé également pour... j'avais été contacté par TSN pour... en fait, ça m'a amené probablement aujourd'hui au fait que je travaille pour ETS parce que j'ai travaillé pour TSN comme analyste en curling parce que j'étais allé en Europe. Alors, c'est pas loin de la porte de curling de tantôt, ça.
Guy Hemmings, qui est notre invité, puis tout ce que tu nous racontes, je pense toujours aux fameuses portes du club de curling qui t'ont ouvertes à Outremont, qui t'ont ouvert les portes d'un changement de vie assez incroyable. On revient dans quelques instants après ces messages.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Nous voilà avec notre invité Guy Hemmings, un visage associé au monde du curling depuis 30 ans maintenant. Guy, tu fais allusion au fait que pour toutes sortes de considérations financières, tes obligations, maintenant, t'as été contraint de prendre des décisions. En 2018, y a-t-il beaucoup de gens qui vivent de ce sport-là au curling au Canada ou ailleurs dans le monde?
Ben, il y en a pas beaucoup. Donc, c'est un petit nombre, mais il y a quand même des équipes, là. Les équipes de haut niveau, je pense qu'ils sont capables de le faire. C'est sûr, la raison, on me pose souvent la question, la réponse que je donne souvent en premier, ça dépend de tes besoins. Les besoins peuvent varier avec le temps, mais mettons, si on veut rester dans un salaire moyen, il y a des joueurs qui réussissent à le faire aujourd'hui plus en 2018 que il y a 20 ans, parce qu'on a, depuis que le sport est un sport olympique, on peut, si tu es une bonne équipe, être une équipe identifiée par le gouvernement fédéral. Si tu es un athlète amateur identifié, tu dois, je pense, c'est 80 000 $ par année pour une équipe de curling de dépenses que tu sont allouées. Une équipe, les meilleurs présentement là, au Canada vont gagner peut-être entre 100 et 100 000, 120 000 $. C'est pas beaucoup, là, on peut pas comparer aux autres sports professionnels. Peut-être entre 100 et 120 000 $ en gagnant dans des tournois. Donc, ça fait, on prend notre 80 plus 120 000, ça fait 200 000.
Pas mal mieux que dans ton temps, là, en tout
ouais,
cas. Là.
Ben, c'est beaucoup mieux. Et peut-être en commandite, ben, c'est sûr, les meilleures équipes au Canada, si tu gagnes une médaille d'or aux Olympiques ou un championnat du monde ou ainsi de suite, ben, là, on pourra probablement parler d'au moins, là, je sais pas, 200-300 000 de commandite. Alors, lorsqu'on additionne tout ça, même si c'est quatre individus, parce qu'on doit diviser par quatre, ben, tu sais, si on arrive à 300 000 à 400 000, 500 000, ben là, tu peux dire, ben, je suis capable de vivre ça. Et la plupart, vivent avec ça. La plupart vont se trouver un petit emploi parallèle, ne font pas ça à temps plein. Moi, je compare ça souvent, là, un peu comme les joueurs qui jouent dans la Ligue canadienne de football. Les grosses vedettes, peut-être, qui ont des salaires qui touchent les millions, mais les joueurs de ligne ou des joueurs, souvent, ils sont obligés de travailler l'hiver pour être capable de jouer au football l'été. Mais c'est un peu la même chose en curling, là. Oui, il y a plus d'argent. Il y a peut-être 5-6 équipes chez les messieurs, 3-4 chez les dames qui vivent de ça là, à l'année longue. Mais il y a quand même plus d'argent qu'il y en avait il y a 20 ans, ça, c'est certain.
Est-ce que des vedettes, tu disais, le curling, c'est un monde, c'est un univers où il y a un paquet de bon monde. Est-ce qu'il y en a à qui ça monte à la tête, le succès?
Ben, c'est sûr que ça peut arriver, là, mais comme je le disais tantôt, il faut quand même que tu gardes les pieds sur la terre parce que sinon tu vas trouver...
T'auras plus d'équipiers.
C'est ça, il n'y a personne qui va vouloir jouer avec toi. Alors, il y en a qui ont essayé dans l'histoire, essayer de prendre plus de place, devenir plus gros que le sport, mais il faut que tu sois vraiment très, très bon pour réussir à faire ça, t'sais, c'est assez rare. Non, je pense que le curling reste quand même... La plupart des joueurs vont quand même être très, 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 très humbles et très, très près des spectateurs. On va regarder le championnat canadien qu'il y a eu la semaine dernière, Brad Gouchou, qui est peut-être le joueur le plus connu, là. C'est un joueur de Saint-Jean-Terre-Neuve, deuxième championnat canadien d'affilée. Il avait rapporté la médaille d'or aux Jeux de Turin. Donc, c'est une grosse vedette en curling canadien. Mais tu vas le voir après le match. Il va quand même prendre le temps de signer des autographes, de se faire photographier avec les spectateurs, même s'il est peut-être la plus grande vedette présentement au curling canadien. Donc, ce côté-là n'a pas encore été affecté. Là. Peut-être quand il gagnera 3 millions de dollars par année ou 5 millions de dollars, peut-être ça changera. Là, mais le 300-400 000 qu'on parlait tantôt, ouais, là, ouais. C'est pas assez pour changer la personnalité des gens.
Il y a bien des Canadiens qui ont participé au développement du hockey en quittant le pays pour aller jouer en France, en Europe, en Asie, partout. Dans le monde du curling, je pense qu'on assiste, et ça n'a pas commencé cette année, au même phénomène. As-tu eu des opportunités d'aller enseigner le curling ailleurs pour d'autres pays?
Ben oui, il y a toujours eu. Évidemment, c'est pas quelque chose que j'ai recherché. C'est pas quelque chose que je voulais faire parce que quand j'ai arrêté de jouer au curling, je travaillais déjà pour l'Association canadienne de curling. Il y en a eu quelques opportunités qui se sont présentées. Je me souviens quelques années en Italie. Il y avait une opportunité en Chine aussi qui se sont développées. Il y en a beaucoup, t'as raison, beaucoup de Canadiens qui travaillent présentement. On regarde ce qui s'est passé, le succès que les Coréennes ont eu aux derniers Jeux olympiques. Ils ont remporté une médaille d'argent. Mais c'est un Canadien qui était là, un bonhomme de l'île du Prince-Édouard qui est allé entraîné, il a travaillé 3 ans et là, il rapporte une médaille d'argent.
Ça aurait pu être un Québécois, par exemple.
Ça aurait pu être un Québécois.
Tu peux me raconter l'anecdote rapidement? C'est un petit monde, des fois. Ouais.
Bon, il y a quelques années, je travaillais pour Curling Québec et j'étais entraîneur provincial. On avait organisé une clinique ici au Québec et j'avais fait venir quelques entraîneurs d'un peu partout au pays, dont un bon entraîneur, un des meilleurs au pays, qui s'appelle Bill Sherard, qui lui était installé en Colombie-Britannique. Et il arrive à Montréal pour donner le fin de semaine de curling avec les jeunes du Québec et il me dit, il me raconte une anecdote. Je lui dis, je dois aller travailler avec. La Chine était à son développement, là, on remonte une quinzaine d'années, elle envoyait une équipe masculine, je suis posé travailler avec eux autres, mais là, ça me tente un peu moins parce que ils vont envoyer l'équipe féminine aussi, là, c'est beaucoup d'orage. J'ai dit oui, mais là, ils envoient les deux équipes juniors, là, c'est trop d'équipes, ça me tente pas, tu veux-tu y aller? À Edmonton, jeudi, pour aller travailler avec ces formations chinoises-là. J'avais d'autres engagements, j'ai pas pu y aller. Mais il y avait un entraîneur du Québec, qui s'appelle Dan Raphaël, qui était là, comme adjoint, si on veut, comme entraîneur cette fin de semaine-là, qui lui a discuté avec Bill Sharkt. Et finalement, c'est lui qui a été à Edmonton travailler avec cette formation chinoise-là. Et il a travaillé avec ce pays-là durant plusieurs années. Il a même réussi à emmener cette équipe-là au championnat du monde.
Ça a changé sa vie.
Ça a changé sa vie. Aujourd'hui, il est encore, on l'a vu aux dernières Olympiques, il travaillait avec la Fédération russe de curling. Donc, il a travaillé avec plusieurs fédérations au niveau international après son succès qu'il a eu avec la formation chinoise. Alors oui, des fois, lui aussi, ce matin-là, la porte a ouvert dans une autre direction.
Personnellement, Guy Hemmings, est-ce que tu as encore des ambitions par rapport au curling? Est-ce qu'un jour, on va avoir la création d'un circuit des champions comme le Senior Tour de golf aux États-Unis? Mais toi, personnellement, est-ce que tu as encore des ambitions?
Mais c'est sûr que lorsqu'on regarde une saison, lorsqu'on est au cœur de la saison, comme on l'est présentement, on vient de présenter les Olympiques, on vient de présenter les championnats du monde. C'est sûr que ça donne des fourmis dans les jambes. On a le goût de dire, hey, il me semble que je serais encore capable. Mais aujourd'hui, à 55 ans, il faut être réaliste. Le curling a beaucoup rajeuni, là. Peut-être il y a 20 ans, on regarde Ross Howard, un Canadien qui a rapporté la médaille d'or aux Jeux de Turin en compagnie de Brad Guichaud. Il avait 50 ans. Mais aujourd'hui, de penser là, qu'on peut compétitionner là, à cet âge-là, c'est plus difficile. Parce que le curling a beaucoup rajeuni. Les joueurs.
Mais y a-t-il un âge où on est moins bon, Guy Gaming? Je veux dire, à quel âge? Parce que c'est pas évident. On comprend qu'en hockey, dans des sports au déploiement cardiovasculaire, mais dans le curling, tu me disais, je peux être aussi bon à 55 ans qu'un gars de 25 ans. J'aurais envie de te croire.
Oui, mais j'aurais tendance à le penser, mais l'histoire prouve que non. Est-ce que c'est le fait que, l'usure prend le dessus? Il y a un certain nombre d'années qu'on peut mettre autant d'énergie dans un sport. Combien d'années peux-tu consacrer là 4 heures par jour de ta vie à t'entraîner et qui t'en garde le goût?
La gestion du stress aussi.
Exact.
Peut-être.
Et ça, c'est un bon point. C'est ce que j'allais mentionner. C'est peut-être au niveau de là que ça commence à baisser. Le stress, on ajoute à ça la concentration. C'est sûr que physiquement, on peut trouver quelqu'un de 50 ans. Moi, aujourd'hui, à 55 ans, je pense que physiquement, je suis aussi capable que je l'étais quand j'en avais 35 ou 45. Mais par contre, au niveau mental, c'est un petit peu plus difficile de gérer cette pression-là, de garder un niveau de concentration élevé. Et c'est souvent ça qui va baisser là, dans tous les sports. On ne parle pas juste en curling, dans tous les sports, c'est le niveau de concentration qui baisse. Et si votre niveau de concentration baisse, bien, les performances vont en souffrir également. Ça, je pense que ça se passe pas juste au curling.
As-tu vécu du gros stress en pleine partie de curling, quand même, des finales du Brier également? Là, tu veux gagner, c'est devant les caméras, t'as pas grandi dans ce sport-là, tu commences en début de vingtaine. Tu te souviens-tu d'un moment vraiment où tu sentais même peut-être que c'était difficile à gérer le stress? Même si t'avais une image d'un gars très décontracté.
Oui, c'est sûr, l'image était plus vendeur que ce qui se passait réellement dedans, ça c'est certain. Mais il y a une chose, comme dans tous les athlètes vont dire la même chose, une fois que la compétition commence, on est plus confortable. Ce qui est difficile à gérer, c'est avant, c'est la nuit avant, c'est le 15 minutes avant, ça c'est difficile à gérer. Mais une fois que le match commence, que ce soit une demi-finale, une finale de championnat canadien ou un tournoi d'importance, une fois qu'on est dedans, mais là, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Les gens demandent pourquoi vous lancez des roches pendant 2 heures par jour. C'est justement pour être capable de garder sa concentration quand il va y avoir un paquet d'autres distractions. Parce que tout ce que tu parles là, de jouer devant 15 000 spectateurs, de jouer devant 1 million de téléspectateurs, ça peut être des sources de distractions. Alors, tu t'entraînes pendant des années de temps pour être capable de contrôler ta concentration, contrôler tes émotions, pour pas te laisser distraire par ces phénomènes-là. T'sais, la personne qui joue 2 fois par semaine, tu la places dans une situation comme ça, va craquer. C'est certain qu'elle va craquer. Mais nous, on lance 100 pierres par jour pour être capable de lancer la bonne vitesse et viser le balai, même s'il y a 1 million de spectateurs, même s'il y a 15 000 personnes dans l'aréna.
Ah, c'est fascinant cet entretien avec Guy Hemmings. Guy, si tu me le permets, on va faire une courte pause et on revient pour la suite. Et déjà, ça va tellement vite, déjà la conclusion de cette entrevue.
Au réseau Cogeco, vous écoutez Mario Langlois, rencontre.
Voilà pour la suite et la conclusion de cette entrevue que nous accorde aujourd'hui Guy Hemmings. Guy, ton plus beau souvenir dans l'univers du curling, là? Un moment qui n'a pas de prix pour toi.
Il y en a plusieurs, la liste est très longue. On va passer à des coups. Je me rappelle d'un placement célèbre au championnat canadien en 99 en demi-finale, un coup là, qui est encore reconnu là, parmi les beaucoup de l'histoire du curling canadien. Évidemment, ça fait plaisir, mais peut-être mon plus beau souvenir, mis à part la porte que j'ai ouverte ce fameux samedi matin-là, que je le considère parmi mes plus beaux souvenirs au curling, c'est peut-être d'avoir joué le premier championnat canadien, c'était en 98, parce que venant du Québec, on le sait que le curling est plus gros ailleurs, on le sait que c'est plus populaire ailleurs, on le sait qu'eux autres, ils vont jouer devant 12, 13, 14 000 spectateurs. Mais quand tu le fais pour la première fois, et je me rappelle, quand je suis revenu du championnat canadien, depuis des années que je dis à ma femme, moi, le curling, c'est gros, et que ma femme ait pu venir, là, à Winnipeg et de voir elle-même de ses propres yeux à quel point le curling était populaire. Parce que là-bas, lors du championnat en 98, c'était là, tu sais, c'est... Tout le monde s'intéressait à ce qui arrivait avec votre équipe. Et je me rappelle, on était revenu là, de l'aéroport pour revenir à la maison. Ton autre était fini, mais tout le monde, sur la rue, à l'aéroport.
Tout le monde t'arrêtait,
tout
là.
Tout le monde arrêtait. Puis,
les autographes, puis toute
l'équipe. Autant ma conjointe, mon épouse, que tout le monde s'intéressait à ça. Et ça, je pense que c'est un beau souvenir. Lorsque. Je pense que pour la première fois de sa vie, il a réalisé à quel point le curling était gros. Et je ne la blâme pas parce que vivant au Québec, c'est pas facile à concevoir. J'ai beau vous en parler pendant une heure de temps ce matin. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne réalise pas à quel point le curling est populaire dans l'Ouest canadien. Et de le vivre pour la première fois, et là, pour moi, c'était un bon souvenir que ma femme, pour une fois, puisse vivre ça avec moi, qu'elle puisse assister au match, être assise dans les gradins et de vivre cette expérience-là que je vivais depuis quelques années d'un peu plus près qu'elle, évidemment. Parce que je t'ai impliqué. Ça a été un souvenir intéressant.
Oui, parce que j'imagine que quand tu te lances à temps plein dans ton sport, en tout cas en parallèle de ta vie, puis tu avais quand même là, le besoin de gagner ta vie parallèlement à ça, à un moment donné, là, c'est des moments que tu vivais seul. Fait que d'intégrer ton épouse, ta conjointe au succès que tu vivais, à cette aventure-là, c'était quelque chose.
Elle n'a pas le choix d'être intégrée dans un sens, mais presque par défaut, parce que les tournois se déroulaient tout le temps dans l'Ouest canadien. On partait le mercredi, le jeudi matin, on revenait le lundi après-midi, on repartait le jeudi. C'était comme ça tout l'automne, tout l'hiver. Alors, j'avais des jeunes enfants, ma femme restait à la maison, elle avait un emploi à temps plein. Alors, elle devait se débrouiller avec ça. Alors, d'être capable de l'impliquer, mon nez, pour l'aider à réaliser à quel point c'était pas juste un caprice, parce qu'elle était consciente que c'était pas un caprice, mais à quel point ce sport-là avait une magnitude là, qu'elle, peut-être les jeunes du Québec ne peuvent pas...
Elle venait de réaliser, « Hey, mon mari, il est rendu une vedette.
C'est peut-être pas ce côté-là, mais je pense que ça, pour moi, c'était un des bons souvenirs. Est-ce qu'on a pu passer à ce niveau-là là, comme couple, là, je pense que c'était très, très intéressant.
Est-ce que tu joues encore au curling?
Ben, ça m'arrive encore à l'occasion, pas autant qu'avant. Une des raisons pour lesquelles je joue pas au niveau compétitif, parce que je pourrais encore me faire croire, on en parlait tantôt, que je peux battre quelques équipes. On a joué un tournoi là, cet automne avec mes deux neveux. Ça, c'était un plaisir. Et un ami à Tracy, il y avait un tournoi assez important au Québec. On a battu 2-3 des meilleures équipes au Québec. Là, même si on joue pas de façon compétitive. Mais c'est difficile avec tout le travail qu'on fait à RDS, parce qu'on fait quand même, je l'ai mentionné tantôt, une centaine de parties par année. Et plus. Et souvent, ces fins de semaine-là occupent à peu près toutes les fins de semaine du début janvier jusqu'au début avril. Donc, il n'y a pas moyen de jouer un championnat provincial. Par exemple, il n'y a pas moyen de jouer des compétitions qui pourraient peut-être m'intéresser encore, même si je considère que je n'aurais peut-être pas grand-chance de les gagner, mais ça me ferait plaisir de m'entraîner pour les jouer. Là, ça devient un peu inutile parce que je ne pourrais pas jouer à cause de mon horaire trop chargé, la couverture des matchs, mais je prends tellement un plaisir à partager cette passion-là avec les gens que c'est un sacrifice que je suis prêt à faire.
On faisait des comparaisons avec le golf tout à l'heure, mais purement au plan des habiletés, pas sociales, mais du sport, là, c'est quoi un bon joueur de curling? Qu'est-ce que ça y prend dans son coffre à outils pour se démarquer, puis peut-être devenir, je sais pas si on peut dire d'un joueur qu'il est le meilleur joueur au monde.
Ouais, il y en a des joueurs qui réussissent à se distinguer. Évidemment, comme tous les sports, ça va nécessiter beaucoup de mémoire. C'est un sport qui nécessite beaucoup de mémoire musculaire. Donc, il faut répéter le geste encore un peu tantôt. Une autre similitude qu'on peut faire avec le golf.
Les dards, non?
Exact. Plusieurs. Si on parlait de nouveau de ce qu'on appelle la coordination entre l'œil et le geste. Hein? Ça, c'est une autre facette qui va être importante. Parce que on doit développer cette habitude-là. Lorsqu'on est sur les glaces, qu'on fait un placement, par exemple, c'est sûr qu'il faut qu'on ait une vision spatio-temporelle assez importante pour évaluer à quelle vitesse on se déplace. C'est vraiment ça. On a beau utiliser des chronomètres, mais il faut qu'on se déplace. Te donner une idée de la précision d'un joueur de curling, par exemple, une glace, elle a 135 pieds de long. OK? On va parler de chiffres un peu. Pour faire un placement dans la maison, on va lancer, nous, on utilise des chronomètres pour se donner une vitesse entre la ligne de jeu, c'est-à-dire à partir du moment que le joueur commence à glisser jusqu'à la ligne de jeu. Ça, c'est à peu près 25 pieds plus loin. On va glisser pendant à peu près une glace normale. Ça va durer 3,75 secondes de glissade, par exemple. Mais si tu te trompes d'un dixième de seconde, ça représente 10 pieds plus loin, plus fort ou moins fort. Alors, ces joueurs-là sont capables de glisser à partir du bug de départ et évaluer une glissade qui va varier entre 3,75 et 3,70. À 3,70, ils sont 5 pieds trop forts. À 3,75, ils sont parfaits à la bonne place. Alors, c'est vraiment cette habilité-là de développer cette vision spatio-temporelle au moment où on se déplace, là, à quelle vitesse on se déplace pour réussir le coup, là, est très, très importante. Alors, le niveau de concentration, on en a parlé également. Évidemment, pour les brosseurs également, le cardiovasculaire est quand même important. Là, on a vu aux dernières années olympiques, il y a un Russe qui s'est fait coincer là, avec une substance illicite pour essayer de développer là, sa force physique un peu plus. On pense qu'on n'en a pas besoin, mais les brosseurs qui veulent être efficaces doivent développer quand même une force physique assez intéressante. Alors ça aussi, ça va aider à long terme là, dans la qualité du joueur.
Guy, c'est déjà presque terminé, mais tu fais du sport autre que du curling. Je pense que tu te donnes à des grandes randonnées, là, du hiking. En quelques secondes, tu t'aventures en montagne dans les parcs.
Ben oui, ben ça m'a une des choses quand j'ai arrêté de jouer au curling, ben ça m'a permis de faire d'autres choses. Et depuis quelques années, je me suis intéressé à la randonnée pédestre, si on veut. Alors je fais des randonnées là, de plus en plus là dans les montagnes. J'aime ça faire des je me donne un défi là en 6-7 semaines, marcher 1000 kilomètres dans les montagnes.
T'as fait Compostelle?
Exact, Compostelle, le GR10 en France dans les montagnes qui partait l'année passée. J'ai parti de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée à travers les montagnes, un séjour de 45 jours entraînant. Wow. Un pack sac sur le dos. Alors, ça me tient en forme. J'essaie de rester en forme physiquement et garder le cerveau vif pour être prêt à décrire le curling lorsque ça se présente à la télé.
Ben, certainement, bon championnat du monde des femmes, le championnat du monde des hommes qui va suivre bientôt. Guy Hemmings, merci beaucoup pour cette belle heure que tu nous as fait passer.
Ben, merci beaucoup.
Au plaisir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là, mesdames, messieurs. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et entre-temps, rendez-vous 18h30 lundi aux amateurs de sport.